Nous entendrons donc maintenant la lecture des 18 premiers versets du chapitre 1 de l'Évangile selon Jean. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas su la saisir. Survint un homme envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière, il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde, elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais tous ceux qui l'ont reçue, pour eux, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire. Une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage. Il s'est écrié. C'était de lui que j'ai dit, « Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tous reçu et grâce pour grâce, car la loi nous a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues de Jésus-Christ. Personne n'a vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est sur le sein du Père. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Fêter Noël, c'est célébrer la naissance du Christ. Alors on a tous en tête les récits des bergers, des mages que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Luc. Mais Jean, lui, commence son évangile de manière très différente. Alors heureusement, il y a tous ces cantiques qu'on a chantés et qu'on rechantera pour nous rappeler ces belles histoires. Mais ici, dans le texte que j'ai lu de Jean, qui ouvre cet évangile, il n'y a pas de mages, pas de bergers, pas d'armée céleste, pas d'âne, pas de bœuf, pas de mangeoire. Rien qui, dans notre imaginaire, pourrait nous suggérer Noël. À première vue, rien de stupéfiant ni de merveilleux. Pourtant si, personnellement, je trouve que le merveilleux est même au cœur le plus profond de ce poème. Parce que ce poème nous plonge dans un chant, en fait, dans un cantique, comme un hymne qui nous propulserait dans un hors-temps, dans un hors-espace, de tout temps, de tout lieu, il était là. Comme un hymne qui nous renvoie à l'abîme insondable de l'origine, pour être hissé aussitôt avec une vision de l'ensemble du monde. Ainsi, dès le début, Jean, l'évangéliste, nous donne le ton. Il est majestueux, il est généreux, et ce ton, nous allons le retrouver tout au long de l'évangile. Le rythme est large, il est posé, les mouvements ascendants et descendants sont harmonieux. Il y a quelques tensions, en effet, dans ce texte, mais loin d'assombrir le climat, elles inscrivent au contraire le caractère spécifiquement lumineux que l'on trouve au milieu de cet hymne. Et Jean expose de manière concentrique par des motifs qui s'articulent, qui se répondent. En fait, l'ouverture de l'évangile de Jean peut prendre place dans un oratorio de Noël. Et puis d'ailleurs, c'est bien là qu'on le trouve et pas dans les cantiques. En effet, il s'agit d'un texte d'un chant, d'un hymne qui chante la naissance. C'est un temps de gestation. À travers cette ouverture, petit à petit, les choses vont se dévoiler. Et dans l'évangile de Jean, nous sommes invités à trouver le chemin de ce dévoilement. Et de motif en motif, ainsi, par quelques touches successives, la naissance est annoncée. La naissance est également l'identité de celui qui va venir, qui nous est progressivement ainsi révélé. Pourtant, l'enjeu n'est certainement pas de créer un suspense. Il est en réalité bien plus fondamental. Dès l'ouverture, Jean nous donne le ton et nous, lecteurs, nous qui entendons ce texte aujourd'hui, nous sommes impliqués parce que nous assistons en réalité à une double naissance. La naissance de Dieu, bien évidemment, la parole a été faite chair, mais également notre propre naissance, la naissance de l'être humain devant Dieu, puisqu'il s'agit, nous l'entendons, de devenir enfant de Dieu. Pour le dire autrement, en réalité, lorsque le Fils de Dieu se fait homme, lorsque Dieu vient nous visiter sur terre, c'est alors qu'il nous est donné, qu'il nous est offert à chacun et chacune d'entre nous de devenir enfant de Dieu. Il s'agit bien, là également, de notre propre naissance. Mais d'abord, la naissance de Jésus. Alors, elle a eu lieu certainement il y a un peu plus de 2000 ans, ce n'est pas exactement maintenant les historiens, puisque à peu près personne ne remet en doute l'historicité de Jésus, situerait cette naissance en moins 6 avant Jésus-Christ. On s'est trompé certainement au début dans les décomptes, et puis vous le savez parce qu'on le répète assez souvent, il est probablement né non pas un 25 décembre, mais plutôt bien au printemps ou en été, parce que même en Judée, il n'y a pas de moutons dans les champs la nuit avec des bergers. Et quand il fait froid, parce qu'il peut le faire très froid là-bas aussi, eh bien l'hiver, on rentre les moutons, ils ne sont pas dans les champs. Mais peu importe, finalement, qu'est-ce que nous dit ce texte? Eh bien que la lumière est venue et que nous sommes là pour accueillir cette lumière. Et c'est bien le moment où il fait le plus sombre, où nous avons vraiment besoin de cette lumière. Donc Noël, nous le fêtons, eh bien au moment où les jours sont plus courts. En fait, en réalité, derrière ça, il y a certainement des réminiscences païennes. Donc, mais peu importe parce que symboliquement, c'est très fort quand même de fêter Noël un 25 décembre, fête de la lumière. C'est cela qui est inscrit au cœur du prologue de l'évangile de Jean. La lumière brille dans les ténèbres, c'est la lumière, la vraie même, celle qui éclaire tout être humain. La lumière au cœur des ténèbres, la lumière au cœur de nos ténèbres, sans laquelle il n'y a pas de vie. Sans lumière, évidemment, il est difficile de trouver son chemin. Mais en plus, sans lumière, la vie est bien triste, elle est bien fade, tout est gris, noir, il n'y a pas de couleur. La vie, la vraie, la vie qui nous est offerte avec l'avenue du Christ, eh bien justement, c'est une fête des couleurs, une fête de la vie. Et c'est pour cela qu'il nous est dit qu'il est la lumière. Alors, voilà un récit, un beau récit, pour ouvrir l'évangile de Jean. Un récit qui n'a rien d'historique, mais finalement, vous savez, les autres non plus ne sont pas très historiques. Les évangiles sont des constructions théologiques qui nous invitent à croire, à aimer, à inscrire nos pas dans celui du Christ, et peu importe la réalité historique. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, on voit bien que l'évangéliste, eh bien, ne s'intéresse pas du tout, finalement, à l'histoire, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il nous dit bien autre chose. Il construit un chemin, un chemin sur lequel nous sommes invités à croire et à aimer. Parce qu'il s'agit bien cela dans l'évangile de Jean, ça nous est dit dès le prologue, c'est un chemin de foi. À celui qui croit, il sera donné d'être enfant, enfant de Dieu. Et dans l'évangile de Jean se mêlent deux motifs continuellement, la foi, croire et aimer. Et en quelque sorte, Jean nous dit que c'est la même chose. Certains d'entre nous, des fois, se demandent, est-ce que ma foi est assez grande? Eh bien, si vous aimez les autres, si vous êtes capable de quelques gestes d'amour, de temps en temps on se trompe dans nos gestes d'amour, eh bien, vous croyez et vous ne posez pas plus de questions. Croire et aimer sont intimement liés. Et c'est cela aussi qui est fêté à travers ce prologue, cet amour de Dieu pour nous qui nous offre son Fils, presque Dieu. Alors, chacun peut l'interpréter comme on veut, vous le savez, il y a ce qu'on appelle les hautes christologies qui voient dans le Christ carrément Dieu, puis d'autres, le Fils de Dieu, puis d'autres, encore un être humain qui nous a montré le chemin. Peu importe ce que vous croyez, simplement, il nous est demandé de l'accueillir et d'entendre ce qu'il nous invite à faire, c'est-à-dire mettre nos pas dans ses pas et aller sur nos routes pour aller tendre la main à ceux que l'on croise sur nos chemins. C'est ça qui est très important et qui nous est dit dès ce prologue. Dieu est venu parmi nous. Il n'est pas resté là-haut, très très loin de nous, dans le ciel. Il est venu parmi nous. Il nous a donné sa lumière qui est la vie. Et on l'a bien entendu, dès l'ouverture de la Genèse, la lumière est présente. Lumière qui est présente bien avant les astres, le soleil, la lune, les étoiles. La lumière est là. D'ailleurs, ça, au début, ça m'a toujours interpellée. Parce que le premier jour, il y a la lumière, et puis le quatrième jour apparaissent les astres, particulièrement le soleil. On peut s'interroger. Eh bien, bon, j'en suis persuadée, la Bible n'a rien ni d'historique ni de scientifique, mais pourtant les scientifiques aujourd'hui sont d'accord. La lumière est apparue avant les soleils qui peuplent nos terres et qui sont des étoiles ou des soleils ou le soleil le nôtre. Donc je ne sais pas comment, je n'en sais pas assez. Mais la lumière est là avant, parce que sans lumière, il n'y a pas de vie. Et Dieu est venu nous éclairer de sa lumière, la lumière du Christ. Et puis, au cœur même de ce prologue, la question est posée, qui est Jésus ? Le mystère de l'origine de Jésus, qui est celui de la personne lui-même de Jésus, est dévoilé en quelque sorte dans le prologue de l'ouverture. Il est la parole. Alors, on peut s'interroger, qu'est-ce que ça veut dire, il est la parole ? Il est Jésus et la parole. Mais c'est tellement vrai que l'évangile de Jean, comme je vous l'ai dit, finalement ne s'intéresse pas à l'histoire. Il s'intéresse à ce que Jésus dit. Et l'évangile de Jean, eh bien, il a une spécificité. C'est pratiquement l'évangile qui nous dit tout le temps « je suis ». Jésus va aller sur les chemins et il va dire « je suis le chemin, la vérité, la vie ». « Je suis la lumière du monde, je suis le bon berger. » Il dira même simplement « je suis », nous renvoyant ainsi eh bien, à Dieu qui se révèle à Moïse dans le buisson ardent en lui disant « je suis celui qui est ». Enfin, vous savez que c'est complètement intraduisible, mais bon, je ne vais pas insister là-dessus. Il nous dit simplement « je suis ». Mais comme sa naissance nous annonce son propre naissance, le « je suis » de Jésus nous invite nous aussi à être. Parce qu'avec lui, eh bien, nous ne sommes plus rien. Quand nous savons, nous pouvons avoir de l'espérance, avancer. Avec le Christ, nous sommes, tout simplement. Ce n'est pas une question justement de possession. Jésus ne dit jamais « j'ai ». Même quand on parle de vérité, et souvent quand on se bat en son nom, on devrait bien faire attention. Jamais il n'a dit « j'ai la vérité », il dit « je suis la vérité ». C'est quelque chose à trouver. Et cette vérité, il la trouve comment ? Il la trouve dans la rencontre avec les autres, dans le dialogue, dans l'écoute des autres. Et je pense que ça, c'est essentiel aussi dans l'Évangile. Il est la parole, cette parole qui donne la vie. Alors, je le sais, il y a bien des paroles qui peuvent tuer. Il faut faire très attention quand on dit « il est la parole ». Mais il est la parole qui donne la vie. Et que se passe-t-il dans ce début d'Évangile ? Vous savez, dans les autres évangiles, chez Luc particulièrement, au moment de l'Annonciation, l'ange Gabriel dit à Marie « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Alors ça, c'est toujours un problème de traduction. La puissance du Très-Haut, en fait, le mot « puissance », c'est le même mot qui est traduit dans d'autres contextes des évangiles par « miracle ». C'est ce mot de puissance, dynamisme, qui donne dynamique. Eh bien, le miracle du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mais chez Jean, et c'est pour ça que je l'aime, tant l'évangile de Jean, tout est beaucoup plus subtil, symbolique, tout est en douceur. Le mot miracle même n'y est jamais prononcé. Lorsque Jésus fait son premier miracle, entre guillemets, qui est les noces de Cana, au moment où il change l'eau en vin, dès le début, eh bien, ce n'est pas le mot miracle qui est employé chez Jean, mais le mot de signe. Et un signe, eh bien, c'est quelque chose qui s'adresse bien plus à nous. On peut croire, parce qu'il y a des manifestations de puissance. Et après tout, c'est très bien. Mais les signes nous invitent à croire en déchiffrant notre existence, en trouvant ces traces là où nous ne l'attendons pas. C'est cela, en fait, que nous dit Jean dès le début. Il était là bien avant. Il est la parole. À nous de trouver ces paroles, soit en les prononçant, parfois même par des silences qui peuvent créer la vie, soit en les entendant et en les recevant. En fait, il y a un signe. Un signe, vous savez, c'est ce qui peut nous donner, quand on fait un signe à quelqu'un, il comprend, mais ce n'est pas quelque chose d'aussi fort qu'une vérité qu'on assène, des paroles qui peuvent être tellement fortes que l'autre ne peut plus prendre la parole. Eh bien, le signe, au contraire, nous renvoie à notre propre responsabilité, nous renvoie à notre interprétation. Alors déjà, l'interprétation des textes, mais également l'interprétation de nos existences. C'est cela aussi qui est très important chez Jean. Et cette proposition si hallucinante, la parole s'est faite chair, c'est une thèse qui va traverser le christianisme à travers les âges et puis qui va faire couler beaucoup d'encre. C'est-à-dire que Dieu s'est incarné. Cela signifie que Dieu, dans la personne du Christ, me rejoint dans mon humanité. Il s'est fait homme. Plus tard, on va dire dans l'évangile de Jean, au moment du procès, « Ecce homo, voici l'homme ». Mais cet homme, le Christ, ne nous est pas proposé comme homme à imiter. Vous savez, au Moyen-Âge, les gens très pieux, et surtout, je ne voudrais pas remettre en cause ce type de piété, essayez d'imiter, il y avait l'imitation du Christ. Non, ce n'est pas une parole qu'on peut imiter parce que je pense qu'elle est inimitable. Mais c'est une parole qui nous met en marche. Et cette parole, en fait, c'est le fondement d'une éthique qui nous est donnée. Cette parole aussi, et enfin, nous permet d'être enfants de Dieu. À ceux qui croient, à ceux qui aiment, eh bien, il est donné d'être enfants de Dieu. Cela nous dit que la relation à autrui n'est désormais possible uniquement que comme relation entre fils et filles. Nous sommes invités à être frères et sœurs en Christ, et c'est cela aussi qui est si important. Noël nous dit aussi cela, la relation à l'autre n'est possible qu'en Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, et on ne peut devenir enfant de Dieu que par Dieu lui-même, c'est-à-dire par Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. La vérité se trouve donc dans la lumière, en Christ, qui nous est, comme nous le dit l'apôtre Paul, à partir de la venue du Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme ni femme, car en Christ, l'autre est un fils, l'autre est une fille comme moi, et nous sommes invités à les rencontrer avec, certes, la diversité, mais aussi la manière d'accueillir l'autre comme un frère ou une sœur. Et c'est seulement et uniquement sous cet horizon de l'amour du prochain, que va être possible l'unité des deux grands commandements, commandements que l'on lit si souvent, que j'ai relu encore aujourd'hui, l'amour de Dieu et du prochain, tel qu'elle est affirmée dans l'Évangile. Ainsi, cela s'avère indissociable de notre condition de fils. Vous voyez, la naissance du Christ nous parle de notre propre naissance, pas, comme il est dit, une naissance de chair, une naissance humaine, mais une naissance de Dieu. Et finalement, on retrouve là l'idée de Marie qui est couverte de l'Esprit Saint, en quelque sorte. La vraie naissance, c'est comme nous savons accueillir Dieu et l'Esprit. Et c'est ça aussi. Et là, c'est un miracle lorsque nous pouvons, nous aussi, être fécondés par l'Esprit Saint. C'est cela, Noël. Et finalement, chaque évangile nous le raconte de manière différente, mais chaque évangile nous dit cette bonne nouvelle d'un Dieu qui n'est plus lointain, un Dieu qui finalement vient sur terre se coltiner nos problèmes, aller sur les chemins, et puis finalement qui ira jusqu'à la mort pour vivre complètement cette condition humaine. C'est cela, la parole qui s'est faite chair. Il s'agit d'une naissance, et cela nous est confirmé lorsque Jésus-Christ est appelé le Fils unique, le Fils de Dieu, mais également le Fils de l'homme. La parole est devenue chair. Il s'agit aussi de ma propre naissance. Et en la recevant, je suis devenue enfant de Dieu. Amen.